R22, tout mon
R22, antenne, tout Radio Brouhaha.
Et maintenant, quoi de plus extra qu'une radio? La radio Brouhaha.
Ce jingle, chaque jour, c'est, ça me surprend encore. Hein. Je ne sais pas combien de temps je mettrai à m'y habituer. Donc, bienvenue pour ce dernier jour du Cabaret Extra. Je vous rappelle le principe, si vous ne le connaissez pas. En bas, il y a un très beau, très grand et très beau, il faut le reconnaître, supermarché sous verrière. C'est très bruyant, c'est le Paris de la modernité, du 19e finissant, des machines à vapeur et du commerce. On y croise des créatures détonnantes. Par exemple, j'ai vu des hommes en uniforme militaire, beaucoup, hier, je ne sais pas trop pourquoi. Ils viennent pas mal à la buvette des auteurs. Hier, ils étaient d'ailleurs à côté de Monsieur K et Corinne. C'était un spectacle intéressant. J'ai aussi vu un rédac-chef du Figaro, pas loin de l'Empire Bolloré, qui s'étale et s'impose tellement qu'il y a même eu une manif hier soir, hier après-midi. Mais on n'entendait pas les slogans. Il y a aussi des livres super chez des petits éditeurs indépendants qu'il faut aller soutenir, comme L'Arche, par exemple, ou Verdier, au hasard. Ici aussi, on aime les livres, mais on préfère le brouhaha au bruit, le brouhaha d'une littérature indisciplinée et qui ne sort pas des supermarchés, celle qui, par exemple, rencontre le cabaret. C'est donc notre dernière émission consacrée au croisement de la littérature et du cabaret. C'est une émission un peu sous le signe de la poésie, avec trois invités, dont je les signale à cette table, c'est suffisamment rare pour qu'on le remarque, la moitié des intervenantes et des intervenants sont nés à Carcassonne.
Ouais.
Hein, c'est quand même un fun fact, hein, étonnant, c'est pas si fréquent, mais en tout cas c'est le cas. Donc je reçois aujourd'hui à la table Masca, qui est à ma gauche, que je vais présenter plus en détail dans une seconde, Lily Beth Merle en face de moi, et Joël Sambi qui vont intervenir successivement. Donc Mascar est une des quatre cofondatrices du Cabaret La Bouche, avec Soie de Muse, Grand Soir et Billy Bellegarde, qui sont toutes et tous présents aujourd'hui pour performer tout à l'heure. Elle est aussi la moitié du duo de musique Namoro avec Billy Bellegarde, autrice de la pièce Belgazou, artiste multiforme en un sens. Et je vais commencer par une question récurrente que je poserai sûrement à Lily Beth aussi, hein, parce que je l'ai posée à toutes mes invitées qui ont créé un personnage. Donc, qui est Mascar en fait? Et est-ce que c'est un personnage qui évolue? Est-ce que c'est un personnage de fiction? Et est-ce que c'est un personnage dont tu fais une sorte de roman?
Alors Mascar, déjà, c'est un mot occitan. Ça part d'un mot, mascaro, ça veut dire trouble en occitan.
Ça nous donne un indice sur qui est né à Carcassonne.
Qui est né à Carcassonne, ouais. Autour de cette table. Et en fait, je pense que de la même manière qu'on est avec un état civil, moi, avec mascar, je me suis créé un état de vie. C'est mon nom, c'est-à-dire que je réagis à ce nom-là, même dans le supermarché. C'est pas qu'un nom de scène, c'est un nom de vie. J'ai pas renié mon nom civil pour autant, mais c'est celui que je me suis choisi en tout cas, et du coup c'est une manière d'être au monde, quoi. C'est pas que dans la fiction.
D'accord. Et sur la scène du Cabaret La Bouche, par exemple, est-ce que Mascar a une identité propre que tu travailles, comme on travaillerait les traits d'un personnage?
En fait, vu que c'est trouble, je travaille le trouble, quoi. Donc, mascar, ça veut dire aussi, c'est le mascaré, tout, c'est un courant d'eau, c'est un courant qui est très fort et quasiment invisible quand la mer et la rivière se rencontrent. Et du coup, c'est cette chose-là. Enfin, du coup, ça reste trouble. Donc, oui, je le travaille, mais dans le trouble, donc je peux pas faire autre chose que des trous noirs, quoi.
Ouais, d'accord. Bon, en parlant un peu de La Bouche, c'est un groupe, au fond, qui se produit et qui se présente comme un cabaret queer et autogéré. Alors, autogéré, en quel sens? Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Ah, parce qu'on fait la billetterie, enfin, on tient une baraque, quoi, comme si on tenait une baraque à frites, sauf que c'est une baraque à cabaret. Il y a un bar, ouais, voilà, on vend des t-shirts aussi, Vengeance lesbienne, c'est notre effigie. Et donc c'est pour ça que moi je dis souvent que c'est autogéré par quatre personnes dysfonctionnelles, ce qui est le cas, et ça marche bien, donc ça veut dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Et queer, parce qu'on est 4 personnes queer, on est TPG dans l'équipe, donc voilà, c'est ça qui nous a rassemblés.
Et l'autogestion, c'est aussi une réflexion sur le statut du travail dans le monde du spectacle ou c'est juste un état de fait?
Non, c'est vraiment choisi de réfléchir aux moyens de production de la même manière qu'on réfléchit aux numéros. C'est pour que tout soit lié et que tout ait un sens dans ce qu'on fabrique. Donc l'idée, oui, c'est de posséder l'outil de production, mais en même temps c'est quelque chose qui est assez traditionnel, parce que avant, quand l'immobilier n'était pas si cher à Paris notamment, bah, en fait c'est les artistes qui tenaient les lieux. C'est assez récent que les artistes se soient fait déposséder de leur espace, et c'est aussi un travail qui remet en perspective le lien à l'institution, puisque maintenant les lieux d'art sont des lieux institutionnels ou privés, alors que en fait pendant longtemps il y a eu aussi des artistes qui tenaient baraque. Je pense par exemple à Suzy Solidor à Paris, ou enfin c'était vraiment fréquent. Et nous, on choisit le prix des cocktails, on met aussi beaucoup de choses sans alcool et que ce soit bon, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui sont en sobriété. Donc
on en parlera tout à l'heure avec Lily Beth. C'est une des questions aussi que je me pose sur cette question de la sobriété et du rapport à l'alcool. Donc, ce qui fait un peu la particularité de la bouche, de mon point de vue, hein, mais il y a beaucoup de particularités, vous avez votre univers à vous, c'est aussi que vous êtes 4 et plutôt comme un groupe, plus qu'une troupe, d'une certaine manière, presque comme un groupe, je ne sais pas, de pop, de rock ou autre chose. Et tu as déjà répondu sur le caractère dysfonctionnel, mais qu'est-ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui fait l'identité un petit peu collective de la bouche?
Je pense qu'on est toutes les 4 animées par un profond désir de liberté et même une obligation. Je pense qu'on est profondément marginal parce qu'on a vraiment du mal à se faire imposer quelque autorité que ce soit. Donc en fait l'autogestion, c'était aussi une manière d'exister, parce qu'on supporte pas en fait d'avoir des patrons au-dessus de nous. Donc on était un peu forcés finalement, de, si on voulait continuer de travailler dans la joie, de se trouver pour s'inventer ensemble. Je pense que toutes les 4 je pense que notre inadaptation est vraiment fondamentale en fait dans ce groupe. Et après on vient d'univers très différent, donc c'est même pas la musique, on se reconnaît pas du tout dans la musique des uns des autres, enfin c'est pas du tout ça. On vient d'univers extrêmement différents toutes les 4 en plus, donc on se retrouve sur certains points, mais je pense que c'est vraiment c'est Soa qui dit souvent ça. Elle dit, si je dois attendre que Pierre, Paul ou Jacques me donnent la permission de faire quelque chose, ils vont pas le faire en fait, parce que personne veut de nous. Donc on est obligé d'y aller nous-mêmes, quoi. Ouais. Et puis on veut, en fait, moi j'ai absolument aucune admiration, l'admiration et l'humiliation, pour moi ça, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc je vais pas attendre que quelqu'un m'admire pour que j'ai du travail en fait, parce que je sais que ça pourrait très vite se retourner en humiliation. Et
est-ce que peut-être pour prolonger ça, et c'est une question que je peux adresser à Lily Beth aussi, peut-être à Joël aussi, je n'en sais rien, mais est-ce que c'est une des particularités justement du cabaret de permettre ça? Moi c'est ce qui me frappe dans ces discussions depuis trois jours et depuis que je travaille sur ces questions-là, c'est que cette scène du cabaret, elle est à la fois plus accueillante à des personnes qui sont par ailleurs invisibilisées, et par ailleurs elle laisse plus de champ pour s'investir soi-même et construire sa propre gestion, quoi.
Mais en fait c'est pas qu'elle laisse plus de place, c'est qu'elle est créée par. Donc du coup en fait c'est pas, les gens souvent se disent mais qu'est-ce qui fait, en fait non, c'est que c'est nous qui avons créé ce mouvement là donc en fait on est, oui en fait c'est juste qu'on a un rapport à l'accueil qui est fait du fait que par exemple dans la rue on est vachement agressé, donc quand on crée des lieux, on essaie de créer des abris. Moi je crois pas au terme de safe place, parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit sûr sur cette terre, c'est comme ça, c'est safe as possible, mais c'est ça qu'on essaie de faire, des endroits où les gens ils peuvent se reposer, quoi. Quand on a fabriqué la bouche, parce qu'on l'a fabriqué, on a posé les tables, les loges et tout ça. Après, le gros œuvre, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est des professionnels du métier, mais on a fait le suivi de chantier. L'idée, c'était de créer un espace où, un peu comme une sorte de hammam pour moi, quoi. Tu te poses et tu te détends. Parce qu'en fait, le monde, il est très dur. Donc, si on se crée pas des abris, on crame en permanence, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est plus accueillant et qu'après les gens se disent ah mais c'est super. Et puis aussi qu'on est la partie visible de toute une communauté au sol en fait. Mmh. Et que nous on brille, on est là, on fait des blagues et tout, on est trop sympa, mais on est aussi animé par toutes ces personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles ou qui sont pas là, qui sont plus là. Enfin, c'est tout ça qu'on charrie en fait quand on ouvre la porte de notre cabaret. Mmh.
Et je ne sais pas si Lily Beth, tu veux réagir à ça, parce que toi tu travailles à la fois avec la scène du théâtre et celle du cabaret, et donc est-ce que c'est...
Oui, c'est, pour moi le cabaret c'est do it yourself, et c'est vrai que ça s'est créé, on est venu prendre notre place, mais dans des lieux qui ne sont pas institutionnels, c'est dans, la plupart du temps c'est dans des bars, c'est dans des lieux underground, donc c'est... On n'a pas attendu la permission, on l'a prise. Enfin, on l'a prise. Et c'est et les premiers publics, ça va être des gens de nos communautés. On va être dans un cercle vertueux de la guérison, en fait, où on va performer des choses sur scène pour des gens qui vivent la même chose que nous. Et moi, mon travail, je suis pas la seule à faire ça, hein, mais... ce qui m'anime, c'est de venir justement créer des ponts avec l'institutionnel et de ramener ces artistes et ces publics dans des théâtres, dans des endroits où il y a plus de moyens, autant au niveau de l'argent, mais aussi au niveau technique. Quand je dis au niveau de l'argent, c'est au niveau des cachets qu'on va recevoir, parce qu'après, il y a toute une économie. Les artistes souvent qui sont underground, ils peuvent pas prétendre au statut d'artiste, à ce genre de choses. Donc c'est comment est-ce que on arrive à en fait devenir indépendant, quoi, grâce à ça.
Et Joël, toi tu es artiste associé au Théâtre Wallonie-Bruxelles, donc il y a aussi peut-être cette manière. J'ai vu sur le site que vous êtes présenté avec Caroline Lamarche comme littérature et slam. Bon, Caroline Lamarche ne fait pas de slam, je crois, donc j'imagine qu'on pensait plus à toi. Et donc cette manière aussi d'amener vers le centre, c'est de ce dont parlait Lily Beth. Est-ce que tu es animée aussi un peu par cette volonté-là?
Oui, et vous disiez tout à l'heure, vous parliez de ces espaces cabarets qui sont des lieux accueillants, mais c'est surtout des espaces, on accueille les gens comme on a envie, nous, d'être accueillis, en fait. Donc on crée comme ça des espaces qui nous correspondent, qui nous ressemblent le plus possible. En effet, je suis artiste associée au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Moi, je viens de la scène slam, donc c'est un petit peu les mêmes ressorts. C'est créer sa scène, donner le micro, tendre le micro à des personnes qui ne le tend pas de manière générale. Et en effet, mon travail, c'est de dire qu'en fait, on a autant sa place sur une scène de théâtre national que dans le squat de mon quartier, et que les deux se valent, parce que ce qu'on a à dire est tout aussi important sur une scène ou sur une autre, quoi.
Alors, Mascar, je reviens à toi. Quand j'ai vu la bouche, j'ai été frappé, vraiment, je te l'ai dit, par la qualité littéraire des textes que tu performais. Et donc je voudrais te poser la question de l'écriture par rapport à la performance. Est-ce que c'est un travail écrit au préalable? Est-ce que c'est improvisé? Comment tu travailles pour cette présence sur scène, qui est une présence poétique aussi, la tienne?
En fait, les numéros partent souvent d'une réflexion sur quelque chose, et après c'est de l'impro. Mais je me fais un chemin mental, et après en fait c'est aussi je fais des blagues. En fait, moi je me suis rendu compte que j'étais drôle en faisant du cabaret. Avant, je savais pas.
J'en ai une, hein, si tu veux. Je l'ai noté. Ça n'a jamais existé, le quatrième mur. C'est une invention du BTP bourgeois.
Oui, voilà, par exemple, ouais. Que j'ai fait en plus la fois où tu étais là. C'est la première fois que je l'ai faite, et du coup je l'ai refaite hier, parce qu'on a joué hier. Parce que je me suis dit, ah, Lionel avait rigolé, d'autres gens vont sûrement rigoler ce soir. Voilà, donc j'ai compris, voilà, moi, que j'étais drôle. Avant, on me donnait que des rôles hyper deep et tout, parce que moi, je viens du théâtre aussi à base. Et là, j'ai fait que du cabaret, je faisais des blagues, voilà, comme ça, qui viennent, qui surgissent. Et donc après, je vois les gens, ils réagissent et tout, et je me dis, ah, celle-là, je vais la garder. Des fois, j'ai plus envie de les faire parce que j'ai trop fait, donc je me dis, oh là, ça me saoule, je le laisse un peu. J'avoue que pour moi c'est pas extrêmement clair le processus. Je sais ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai écrit une thèse en littérature, donc je suis docteur S lettres, ce qui est aussi une énorme blague, parce que quand je le dis, les gens sont un peu genre et je dis non, mais c'est vrai.
Ouais. Et c'est un gros boulot d'être docteur S lettres.
C'est un énorme travail. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé, ce que je me suis infligé à moi-même d'ailleurs. parce que personne ne nous force. mais du coup, voilà, j'aime passer du temps auprès de textes. Donc, c'est ça que je fais. Donc, je vais lire Joanne Nessel, Femme. Et puis, au bout d'un moment, je vais me dire, ah, ce texte, j'ai trop envie de le dire. Et du coup, je vais le dire. Mais en fait, je vais communiquer avec le texte en même temps.
Alors, moi, j'ai vu ça le soir où j'étais là. Tu me diras si c'est juste. Mais j'ai vu La théorie du fiction panier. Ouais. Et j'ai vu Les champignons d'Anat Singh. Mais
oui, tout
c'est
fait.
Ça. Mais, ouais. Mais tu ne l'as cité. Sylvia Plath, tu l'as cité. Aussi, ouais. Mais elle, tu l'as cité. Tu ouais. donnais son nom, mais je crois pas que tu aies donné le nom. Tu as donné le nom d'Ursula Le Guin, je sais plus.
Non, parce que en fait, j'aime bien aussi quand les. En fait, je trouve que la référence, déjà, c'est hyper snob. Et là, vu que c'était une traduction de Sylvia Plath, et en plus que j'ai plastifié, donc je trouve ça drôle de montrer que j'ai plastifié. Mais après, par exemple, la fiction panier. J'aime bien quand c'est les gens à la fin qui viennent me voir et qui me disent j'ai adoré la référence à Ursula Le Guin. Ou des fois je fais la blague, je dis comme Ursula Le Guin le dit. Ça dépend des jours en fait. Si un jour j'ai envie d'être du côté de la référence ou de la blague, ou enfin c'est des. Oui, c'est. Ça dépend, quoi. C'est un ciel, hein. C'est une météo, en fait. Hein. Donc, il y a des jours. Là, par exemple, je vais le faire le numéro tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer, Lionel? Je ne sais pas.
Ben, moi, j'ai vu ça comme une forme de littérature embarquée. Et puis, ça fait sens aussi avec ce parcours qui est de docteur en littérature, mais qui veut sortir du côté un peu. Je ne sais pas, un peu pesant, peut-être, de la littérature. Et, mais parvient à la retransmettre de cette manière-là.
Ben, parler avec, quoi. Ouais. Je trouve. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que pour les personnes qui sont pas bourgeoises, en fait, il y a 200 ans, enfin moi, en plus avec mon parcours avec l'Algérie, les mines du Nord et tout, enfin clairement, je pense pas qu'il y avait des bouquins dans mon héritage. Par contre, il y avait le cabaret à Oran qui, enfin, on n'en parle pas beaucoup aussi parce que les institutions commencent un peu à se mouiller. Mais en fait, quand vous faites rentrer le cabaret dans une institution, vous faites rentrer la drogue et la prostitution aussi. Et c'est ça qui est en train de se passer, et c'est pour ça qu'on le dit un peu à demi-mot, mais ça reste aussi des espaces où ce sont des pratiques qui sont très présentes. Et du coup, bah, en fait, le travail du sexe, le travail du spectacle, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. Moi, c'est ça mon héritage. Et à Oran, les cabarets, c'est des bordels, en fait. Donc, et moi, je viens de là, donc du coup, bah, si je dois communiquer, dialoguer avec la littérature, je vais le faire avec la manière que ça a été fait, je pense, depuis longtemps, c'est-à-dire une réponse aussi orale, en fait. C'est comme on retrouve dans beaucoup de traditions qui sont en fait populaires, c'est-à-dire quelqu'un chante un truc, tout le monde répond tatati tatata, tata. Et ben moi je fais ça mais avec le texte, quoi.
Et du reste, il y a eu toute une tradition de cabaret kabyle à Paris qui pour le coup a un peu disparu, celle-ci, selon moi, en fait.
Si, ça a disparu.
Et je voulais aussi t'interroger, je t'ai entendu parler, mais tu en as dit un petit mot, de ce lien entre joie et militantisme, ce lien entre la parole politique et la flamboyance. On a parlé un tout petit peu avec Abby Beach hier.
Ah oui, c'est comme le développement personnel, s'il n'est pas appliqué à une pensée révolutionnaire, c'est cool. On est convoquer la joie. En fait, le problème, c'est que on pourrait avoir comme moteur la tristesse, parce que c'est tellement injuste tout ce qu'on vit, tout ce qui est vécu dans ce monde, comment il est fait. Mais le truc, c'est qu'on l'a bien vu avec les élans révolutionnaires précédents, ça marche pas. Et moi, je crois que oui, la tendresse et la malice. N'oublions jamais la malice. Je pense que la malice nous sauvera de plein de choses. Et je pense que le jour où ça va péter, parce que ça va péter, c'est clair. Est-ce que c'est dans 50 ans? Est-ce qu'on le verra? Moi, j'aimerais bien. Mais quand ça va vraiment péter, ça va être vraiment. Il faut que ce soit rigolo. Parce que ça, c'est de notre côté, quoi, la blague. Moi, je pense souvent à Bobo, qui est cette figure. Dans les mythologies passées, c'est Bobo avec Perséphone et tout ça. Tout le monde pleure, tout le monde dit ah ben voilà, la terre est dure, tout est dur, les corps violentés. Et il y a Bobo qui arrive et qui fait une blague et tout le monde éclate de rire. Et du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et ça recrée un élan en fait vital et donc politique. Ouais.
C'est ce qui a été conceptualisé par certains comme l'humour du désastre, par ailleurs, notamment Antoine Volodine, dans ce texte-là. Lily Beth, on t'a déjà entendu, mais je te présente, tu es comédienne, metteuse en scène, cabarettiste, drag queer, initiatrice du projet Le Cabaret Poème, qui est une des, pas la seule, mais une des raisons de ta présence à cette table. Tu étais aussi, je ne sais pas l'initiative, mais en tout cas en maîtresse de cérémonie de la 16e arcane Carnavalo en F démarche dans l'ombre des certitudes au CVB. Et je crois que tu veux commencer par une petite lecture d'un poème.
Oula, oui, je ne me suis pas préparé, attendez.
Ah ouais, c'était ce qu'on s'était dit
voilà.
Pourtant.
Oui, non, mais tout à fait, mais je n'avais pas. Voilà. Alors attendez, c'est parti. Il va falloir meubler deux secondes.
Oui, alors je peux dire, je peux te citer aussi.
Oui, tout à fait, cite-moi.
Dans le cabaret poème, il y a un statement que j'aime beaucoup, oui. Qui pose un certain nombre de questions. Tu vas faire ta lecture, tu me diras après si tu es capable de répondre aux questions que toi-même tu poses. C'est de quoi un poème est-il fait ? De mots, de sons ou bien de mouvements de lèvres ? Un poème, ça se lit ou ça se déclame ? Est-ce que ça se danse un poème ? D'où vient la poésie ? Est-ce qu'elle a une couleur de peau, une sexualité, un genre, une classe sociale ? C'est pas ce que tu voulais lire, j'espère.
Si. Non ? Bravo. Si, c'est le début de mon texte.
Ah mince.
J'adore.
Ah oui.
C'est génial.
Alors, du coup, non, pardon, fais-le toi-même.
Je le fais moi ?
Ouais, vas-y.
C'est bien, comme ça, on a mixé nos voix, je trouve ça très joli. Vas-y. De quoi un poème est-il fait ? De mots, de sons ou bien de mouvements de lèvres ? Un poème, ça se lit ou ça se déclame ? Est-ce que ça se danse, un poème ? D'où vient la poésie ? Est-ce qu'elle a une couleur de peau, une sexualité, un genre, une classe sociale ? À qui la poésie ? Il pleut sur ma ville. Mes cheveux ruissellent, mon cœur lourd se noie. Les gouttes battent le pavé. L'hiver a trop duré. Où est le soleil qui séchera mes joues ? J'invoque la chaleur, j'invoque la colère, j'invoque la fierté. La poésie, c'est l'air qui entre dans nos poumons et les énergies qu'on en expulse. La poésie, c'est nos vies précaires et nos mouvements de hanches. C'est la pulpe d'un pamplemousse coupé en deux et la chaleur du soleil sur nos cuisses. La poésie, c'est quand on enlève un vêtement, quand on se caresse, quand on couche des mots sûrs, quand on hurle comme des louves la mort de nos adelphes. C'est la friction des formats, le multilangage, le feu d'artifice. La poésie, c'est se regarder dans les yeux, simplement. C'est un bouquet de fleurs posé sur une table. Un nuage moutonneux dans le ciel. Le mouvement des vagues sur nos pieds. C'est mettre un mot devant l'autre et faire la fête ensemble, avec rage, humour et amour. Car dans poème, il y a M.
Merci Lily Beth. C'était vachement mieux quand c'est toi qui le dis. C'est effectivement pas les définitions qu'on apprend à l'école de la poésie. Alors, donc tu organises cette scène qui s'appelle le Cabaret Poème, où Joël a participé, je crois, et a participé à une des. Et donc tu fais partie des cabarettistes, je dirais, puisqu'on a utilisé ce terme avec Jérôme hier, Marin, qui fait le plus le lien entre les différentes scènes, poésie, cabaret, slam, théâtre. Et donc, dans ce cabaret poème, est-ce que ça fonctionne, toutes ces scènes ensemble ?
Oui. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on continue. Ouais. Moi, si tu veux, je me suis, pendant très très longtemps, je n'arrivais pas à me percevoir comme étant poétesse. Parce que j'avais vraiment des souvenirs de l'école où on devait étudier des textes, que je ne comprenais pas du tout. Et quand je disais « Ah, moi, je pense avoir compris ça », on me disait « Non, tu as tort, ce n'est pas ça ». Et donc, forcément, j'avais du mal à trouver ma place. Et par contre, en pratiquant le cabaret, en pratiquant les scènes alternatives, quelles qu'elles soient, que ça aille justement du burlesque, de la pole dance, du slam, j'ai vu des pratiques poétiques qu'on n'aurait peut-être pas mis, mais ça répondait à ma définition à moi de la poésie, c'est-à-dire que j'étais ému, j'étais bouleversé, j'étais transporté ailleurs, j'étais surprise. Et je me suis dit, parce que la Maison Poème à Bruxelles m'a proposé de créer un cabaret, je me suis dit, bah, je crois que c'est ça que j'ai envie de voir, en fait. J'ai envie d'assister à ce genre de spectacle-là et de réunir tous ces artistes-là ensemble, parce qu'on a quelque chose à dire, quoi. Et ça marche vraiment très, très bien, parce que c'est détonnant.
Alors, il me semble que dans ton travail, tu amènes sur la scène du cabaret des termes ou des pratiques qui, à ma connaissance, n'y étaient pas. Tu en as déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure dans ta première intervention. La réparation, le soin, le rituel, qui sont aussi fondamentales dans tes spectacles Hippocampe ou Lilith, ou encore dans le film Lily baise le système, que je conseille à tout le monde de voir, qu'on trouve assez facilement. Est-ce que tu peux nous parler de ces concepts qui sont, me semble-t-il, pas si fréquents sur la scène du cabaret?
Oui, alors c'est vrai que je me suis rendu compte que on va dire que ma pratique artistique, c'est vraiment du rituel de guérison. Et c'est me guérir moi, c'est-à-dire, par exemple, tu vois, mon premier texte, je l'ai écrit après une agression. Ça a été mon moyen de me réparer, en fait, de sortir l'émotion, de pas rester bloqué avec l'émotion, mais de pouvoir l'utiliser, la transformer. Et ensuite, en le lisant devant d'autres personnes, ces personnes m'ont dit « Ah, merci. Merci, je me sens moins seul. » Et comme elles m'ont dit « Je me sens moins seul », moi, je me suis senti moins seul. Et donc, il y a un mouvement qui a commencé à se créer, une relation qui a commencé à se créer. Et donc ça, je l'ai fait grandir en créant les cabarets ou en créant d'autres formes artistiques. Et donc, ma réflexion quand je vais créer quelque chose, c'est le spectateuriste en face de moi, c'est qu'est-ce qui va lui arriver ? Quel est le chemin que je vais lui faire pour vivre des émotions exutoires. Donc passer par exemple, moi je vais utiliser la tristesse, la colère, la joie, et je vais tirer ces émotions-là, je vais dire okay, comment on fait pour passer d'une émotion à une autre, notamment avec le cabaret, ce que j'adore faire, c'est créer les line-up. Donc un line-up, c'est l'enchaînement de différents numéros et donc des différents artistes qui vont venir présenter leur show. Et c'est de voir par quelles émotions on va passer. Comment on fait pour créer des grands élans, quoi. Et aller vers ça, vers la réparation, vers le care. Pas vers le safe space, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Mascar, ça n'existe pas. Mais justement, plutôt sur comment on fait avec le trouble. Comment on fait avec comment on continue de vivre ensemble.
Je me demandais, alors c'est pas forcément un problème d'ailleurs, mais si ça ne contrevenait pas d'une certaine manière à une des interpellations traditionnelles du cabaret ou dans le cabaret traditionnel, dans son rapport avec le public, qui consiste à gêner, à embarrasser, parfois à choquer. Il y a une forme d'interpellation où certaines spectatrices viennent aussi pour cela au cabaret, pour être un peu, je dirais pas malmenées, mais potentiellement interpellées de cette manière-là.
Dans un rapport de BDSM, oui, si. C'est tout à fait OK. C'est vrai que ça étonne souvent ma pratique, parce que de mêler l'art drag avec la poésie, on n'a plus trop l'habitude de voir ça. Et ce que je pourrais dire, c'est que si on parle de drag, là, d'art drag, souvent ça va être dans des bars, ça va. Ceux qui bookent les artistes veulent que ça envoie rapide, que les gens puissent être bourrés, puissent boire en même temps. On n'ose pas proposer en fait aux spectateuristes d'avoir un moment de calme et d'écoute. Et juste de se poser pendant 2 secondes. Et c'est aussi pour ça que je crée moi mes propres scènes, c'est parce que je suis souvent peu booké dans d'autres endroits. Alors que je pense que vraiment ça pourrait de ramener de la poésie parmi d'autres choses beaucoup plus énergiques, ça a quand même sa place et ça vient créer des frictions et des choses, et c'est toujours super intéressant.
Bon, tu en as déjà un tout petit peu parlé, mais je voudrais quand même revenir là-dessus sans avoir une obsession pour l'alcool du tout. Lors de la première émission, Camille Paillet, l'historienne des spectacles qui était présente à cette table, nous rappelait le lien presque intrinsèque du débit de boisson et ouais, de la scène du cabaret. Et donc toi, dans le cabaret poème et peut-être dans d'autres endroits, tu proposes des scènes fondées sur la sobriété. Oui. Et donc là aussi, c'est une manière de... Est-ce que tu remplaces cette... Alors, Je me suis dit, Lili Beff, elle fait un cabaret mutant. Elle fait muter le cabaret d'une certaine manière. Mais du coup, cette altération des états que provoquent drogue, alcool et qui sont liés au cabaret, par quoi elles sont d'une certaine manière remplacées lorsqu'on va voir les spectacles de Lili Beff ?
Par des méditations.
Voilà.
Oui, parce que moi, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis sobre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas, ou alors vraiment très très peu, d'espace sobre pour les personnes, notamment au niveau des cabarets. C'est-à-dire que je n'arrivais plus dans les premiers moments après l'arrêt de l'alcool de mon côté. C'était très compliqué d'aller en soirée cabaret voir mes copaines parce qu'en fait, tout le monde était sous l'emprise de l'alcool et ça me mettait assez mal à l'aise. Et même moi, je me souviens, j'avais besoin de mon petit verre de vin blanc pour me maquiller et pour monter sur scène, pour me donner un petit kick. Et en fait, ça, c'était pas la bonne direction pour moi. Et donc là, comment j'essaye d'emmener la transe, en fait, de créer la transe, c'est via de la méditation collective. Donc les spectateuristes, à chaque fois qu'ils viennent au cabaret poème, dedans, il y a un moment donné où je leur propose une méditation guidée pour venir justement se détendre par rapport à leur quotidien, lâcher prise, rentrer dans un nouvel espace, en fait. Les problèmes, c'est un peu comme si on les laissait à la porte. Et on va venir les vivre autrement. Des fois, il y a des moments aussi où je fais danser les gens. Voilà, j'essaye de nous émulser, de créer en fait une énergie collective de groupe autrement que par l'échange de substances.
Tu es prête pour un deuxième temps de lecture ? Tu as voulu nous proposer un deuxième temps de lecture. Je vais te laisser l'introduire, mais c'est un moment de lecture un petit peu dommage et d'actualité pour un événement absolument dramatique qui s'est déroulé ces derniers jours.
Ouais. Alors il y a une semaine en Colombie, il y a Sarah Milrey qui est une femme trans de 32 ans qui a été assassinée et on lui a brisé les deux jambes et brisé les deux bras et on l'a jetée dans une rivière et on a filmé sa noyade. Voilà, ça a bouleversé la Colombie entière. Il y a eu beaucoup de tags qui ont été faits en soutien. Et forcément, en écho, ça m'a fait mal. Je suis moi-même une personne s'identifiant comme transféminine non binaire. Et je me suis demandé comment on répond à ça. À toi, agresseur, inconnu de ce soir, tu ne liras jamais ces lignes, et pourtant j'espère qu'elles te parviendront un jour. J'éprouve une profonde tristesse après notre rencontre. Pas triste de tes insultes, de tes gestes violents, pas triste d'avoir été rejeté par toi, mais parce qu'en face de moi, je ne voyais qu'une âme blessée, une colère profonde qui ne savait vers qui, quoi se rediriger. Je me demande quelle a été ta vie, les épreuves par lesquelles tu es passé pour aujourd'hui t'abandonner à la violence défigurée. J'aurais aimé parler avec toi, te raconter un peu de moi, t'expliquer mes yeux maquillés, mes ongles peints, te raconter ce jour magnifique où en mettant du vernis j'ai redécouvert mes mains. Elles, que je n'aimais pas avant, elles me sont devenues si belles que mes mouvements de danse se sont transformés. Que je me sens tel un oiseau, paré de plumes magnifiques pour faire sa parade nuptiale. Que lorsque je sors de chez moi, je me sens belle, que je suis heureuse, toute heureuse d'être moi. Je me sens triste de ne pas avoir pu te communiquer ce sentiment-là, pour que toi aussi tu le deviennes heureux. Tu as voulu lever la main sur moi. Sache que moi, j'aurais aimé te prendre dans mes bras.
Merci. Donc elle s'appelait Sarah Milleret. Voilà. Joël Sambi, on vous a déjà entendu, vous êtes poétesse, écrivaine, performeuse, activiste aussi, hein, on le signale. Je signale à tout le monde que votre livre est certainement sur le site dans le stand de l'Arche qui est en bas, dans le grand magasin qu'il y a sous nos pieds. On vous présente souvent comme slameuse, mais j'ai pu remarquer avec d'autres que votre parcours ne commence pas par la scène ou la performance ou le slam, mais que vous y êtes venue après avoir écrit déjà plusieurs livres. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le slam et dans la littérature performée que vous ne trouviez pas auparavant?
Que je ne trouvais pas dans l'écriture.
Oui.
L'immédiateté. Si...
Ouais.
L'immédiateté. Je suis pas déjà de base. Je suis pas quelqu'un de très patient. Donc il y a quelque chose comme ça de l'urgence de dire que le slam me permet. C'est pas le même élan, le même rapport, la même puissance. Encore que quand on écrit. Mais voilà, le slam, ça m'a permis ça d'être aussi sur. Sur le maintenant, sur l'actualité, sur aujourd'hui, sur ce qui se passe, là où écrire un roman ou un recueil de poésie ou même un essai ou un article va me demander beaucoup plus de temps, de la distance, du recul. Et parfois, en fait, l'urgence est telle que le recul n'est pas indispensable ou nécessaire. Et le slam permet ça.
C'est ce que vous avez proposé sur la scène du Cabaret Poème, lorsque vous avez été invité?
Ouais, non, là pour le coup c'est ouais, c'était, il y avait quelque chose de l'immédiateté puisque j'ai perdu ma maman il y a un an, ouais, maintenant un an et quelques mois, et en fait le Cabaret Poème me permettait de, enfin, j'étais un petit peu mal à l'aise parce que tout ce dont j'avais besoin d'écrire c'était cette histoire là, cette tristesse là, et je ne savais pas si c'était possible de le faire sur une scène de cabaret parce que voilà, j'arrive avec le deuil, etc., la perte, et en fait on en a discuté, et Lily m'a dit bah oui, il y a toute la place, c'est possible aussi, c'est ça qui était intéressant. C'est un premier jet, un texte écrit comme ça d'une traite que j'ai travaillé et proposé au Cabaret Poème et qui maintenant voilà, mature et va prendre une autre forme, mais ça a permis ça, oui.
Alors hier avec Abby Beach, on a parlé de voguing et de walking. Je vois que dans vos pratiques, il y a aussi ce duo que vous avez formé avec Hendrik Ntela, qui pratique le crump. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien entre slam, crump que vous avez exploré et de ces danses et poésies qui sont des poésies d'émancipation aussi, l'une comme l'autre?
Oui, donc le crump est une danse qui est née dans les communautés afro-américaines et latino aux États-Unis et qui est une danse tournée vers le ciel, comme pour remercier le ciel d'avoir atteint la majorité, vu que la proportion d'hommes noirs et racisés qui meurent aux États-Unis. Et donc avec Hendrik Ntela, on travaille sur beaucoup sur les questions de, enfin on s'est rencontrés en tout cas sur les questions de violence policière et de migration. Et moi, il y avait quelque chose dans le jet de l'écriture, dans le slam, dans le rythme que le slam permet, qui se retrouvait, qui faisait écho, en tout cas dans la danse d'Hendrix et dans le crump de manière générale. Mais il y a voilà, 10 crumpers, il y a 10 crumps différents, quoi. Mais Hendrix a quelque chose de très puissant, de très énervé, qui vient peut-être répondre à la colère que l'on peut éprouver quand on aborde ces sujets-là. Et donc on s'est lancé sur ce projet qui s'appelle Fusion et qui aborde la question à la fois des violences policières et des personnes qui meurent, quoi. On pose la question qui meurt à la fin. Ça, c'est un petit peu ce projet-là.
Et dans ce projet-là, est-ce qu'on retrouve de la même manière que dans d'autres projets, je pense par exemple à Autodéfense Poétique aussi, hein, mm-hmm. auquel vous avez partagé et où vous performez Not All Men, un des textes qui est dans Et vos corps seront caillasses, qu'on trouve certainement sous nos pieds. Est-ce que les textes sont retravaillés pour les formes, c'est-à-dire pour la performance ou pour le texte?
Oui.
Ou pour la publication du livre?
Oui, donc en général, j'ai un texte qui va me tourner dans la tête et je sais assez rapidement si je vais le dire ou s'il restera sur la feuille, quoi. Ça, c'est vraiment deux endroits très très différents. Parfois, d'ailleurs, les textes que je dis sur scène sont assez. Enfin, il y a quelques différences avec ceux qui sont publiés, simplement parfois pour une question de rythme ou de travail de la langue, etc. Après, quand j'écris des textes qui eux vont être travaillés pour une forme plus élaborée, on va dire pour le théâtre, etc. Là, c'est encore un autre travail, moins immédiat, plus oui, on va creuser peut-être davantage, même si attention, enfin, on creuse quand même en écrivant de la poésie et du slam, mais c'est encore un autre espace, quoi, un autre endroit. Mais oui, c'est des endroits différents, c'est des manières de faire différentes, même si au final, ce qui tient ces endroits-là, c'est l'envie de dire et que dire et comment le dire. C'est ça qui est le plus important, en fait, pour, en ce qui me concerne.
Là où je vois un lien, puisque à ma connaissance, en tout cas, vous n'êtes pas exactement dans la scène du cabaret bruxellois, qui est une scène assez active, semble-t-il aussi, vous participez à d'autres scènes collectives, d'autres scènes plus associatives, plus militantes, dont émergent des projets artistiques. Je pense à un qui m'a beaucoup intéressé, quoique je n'y ai pas eu vraiment accès, mais c'est le Coco Slam Gang.
D'accord. Ouais. Alors, le Coco Slam Gang, c'est le premier spectacle que j'ai monté, ouais, et qui est un spectacle qui rassemble une dizaine de donc Coco, ça veut dire grand-mère ou grand-père en Lingala, qui est une des quatre langues nationales du Congo-Kinshasa. Et donc, le Coco Slam Gang, c'est le collectif que j'ai monté avec ces grand-mères-là. Elles sont 10. Et voilà, j'ai été les rencontrer une fois pour monter ce projet en leur posant la question: si vous deviez mourir demain, quel serait le message que vous laisseriez au monde? Et donc on a travaillé comme ça pendant quelques années, même, parce qu'on a commencé avant le Covid, puis il y a eu le Covid, et puis après on a repris, et on a monté comme ça une scène où elles laissent leur message au monde, mais aussi elles évoquent leur parcours, parce que ce sont des femmes qui sont, pour la majorité d'entre elles, sont même pas nées à la capitale, à Kinshasa. Elles sont nées dans des villages, elles sont mariées à 16 ans, elles ont traversé Kinshasa, et puis elles sont arrivées à Paris, elles sont arrivées à Bruxelles, etc. Donc c'est vraiment des parcours de vie avec des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Enfin, et donc tout ça, c'est cette histoire-là aussi, et cette trajectoire-là, ce que ces parcours-là disent de la Belgique, et ce qu'ils disent du Congo et du rapport entre ces deux pays qui sont liés par une forme d'amour-haine inextricable, quoi.
Et vous évoquez le Lingala, il y a un peu de présence de Lingala dans Évocor sur Roncaillas, hein, mais qui est assez fragmentaire et parcellaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de faire coexister la poésie en français et en Lingala?
Surtout si je dois performer le texte, alors oui, il y a quelque chose comme ça du Lingala qui peut revenir peut-être de manière plus spontanée. Après, j'ai pour habitude de dire que vraiment, mes deux langues maternelles sont le français et le Lingala. Je crois qu'il y a des choses, je ne sais pas défaire l'un de l'autre. Voilà, il y a une pensée qui... Je pense en français, j'écris en français, et pour autant, je peux reconnaître dans mon écriture ou dans la manière de dire des choses qui émanent du Lingala. Mais oui, je trouve ça intéressant d'aller chercher cette langue-là, de l'utiliser au moment de la performance. Parce que voilà, c'est une autre sonorité, c'est un autre rythme, c'est autre chose encore que ça va chercher.
Avec Caroline Lamarche, vous avez, je ne sais pas comment on dit, été commissaire d'expo peut-être, ou du festival, ou curatrice, programmatrice du festival Les Mots à défendre. Oui. Quels sont les mots à défendre aujourd'hui, selon vous? Je n'avais pas prévu de vous poser, c'est une question piège, hein, ça. Mais...
Free Palestine.
Ah oui, bah, c'est ce que nous a dit Bibich hier. Merci. Vous avez prévu un temps de lecture?
Ouais.
Ok, on va finir cette session sur un temps de lecture de Joël Sambi.
Okay. Briques, caillasses et cacatov sur la flicaille, toutes les flicailles, morts aux porcs, mort aux riches, mort aux patrons, mort aux gays racistes, mort aux homophiles lesbophobes, mort aux grossophobes, mort aux exploiteurs, mort aux violeurs, mort aux politicards menteurs, oui, mort. Les dents de lionne, ça laisse des traces sur les parquets de vos châteaux déjà en feu. Le jour d'après, le front est haut, le menton droit et les droites en béton armé, celles de nos poings, pas des parties. Le jour d'après, c'est parti, la fête et vive la fête sous un pont à Laeken, dans les parcs et les forêts, dans nos slips et dans nos lits jusque dans nos cœurs. De l'électro sointante cadenassée à de la rumba chaloupée. Musique sans voix ou sans voix par milliers, juste ce qu'il faut pour dire et prendre la relève de l'international prolétaire. Comme la poésie, la musique sauvera le monde. Des mots et des décibels pour les belles âmes que vous êtes et que nous sommes. Et le jour d'après, ce que nous sommes ne souffre d'aucune assignation. Nous sommes page 404 ou 69, erreur.tpg, et nos enculades sont consenties et désirées où elles ne sont pas. Le jour d'après, nous sommes travailleurs, travailleuses, avec ou sans emploi. Le jour d'après, on sonne la fin de la récré, la fin des pestiférés, la fin des sans-papiers. Nos espaces seconde zone sont des carrés VIP. Le jour d'après, ce sont les sœurs, celles qui en ont assez, celles qui sont silencieuses, celles qui torchent le cul de tes rues, de tes mômes, de tes vieux pour quelques euros de l'heure et zéro respect, celles qui se crèvent à l'hosto, ou crèvent sous les coups de la testo patriarcale, celles qui recueillent les enfants jetés à la rue, hors des familles bien normées, à la rue, hors des boulots bien payés. Le jour d'après, c'est l'impossible retour de l'invisible, invisible comme l'épitaphe de nos cocos, nos grands-mères, qui sont chez elles, seules, enfermées, apeurées, covidées, Régine, Félicienne, Amandine et toutes les autres. Le jour d'après, promis Coco, on élargit le cercle et vous rentrez dans la danse. Le jour d'après, on dresse l'agenda, on bétonne nos droits et on écrit l'ordre du jour. Le droit à la paresse, le droit à l'ivresse, le droit d'être spectatrice ou active, le droit d'être fatiguée, de tout envoyer chier, le droit de filmer, d'écrire, de refilmer, de pleurer, de raconter, de s'énerver, le droit à la PMA, le droit de pisser et de cracher sur certaines tombes, de déboulonner des statues, le droit de compter et réveiller nos morts, le droit de faire des doigts d'honneur à ceux qui qualifient nos colères d'agression et nos agressions quotidiennes de bien pour la nation. On chie sur ta nation. C'est écrit, indélébile, et ni le White Spirit aka White Tears ne saurait y faire. Tu entends? Tu entends les borborygmes outrés de la clique bonne pensée? Tu le sens? Tu le sens le souffle, tu le sens le souffre. Le jour d'après, c'est Lesboland, une friche entière de Gwyn, de Minou, de Lélé, de Félé, d'Utopier et de solides alliés. Le jour d'après, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On met le feu, on fait péter, ça va saigner. Merci.
Merci Joël, c'était parfait pour clôturer. Donc on va s'arrêter là. Un remerciement à l'équipe du Centre Pompidou et à l'équipe de la R22 pour avoir permis ces trois émissions. Je vous rappelle que ça continue, ça ne fait que commencer et qu'on retrouve même Mascar à 14h
oui,
14h sur scène.
Oui, oui.
Donc merci à toutes les trois.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
R22, tout R22, antenne, radio pour moi.